dans ta fidélité, dans ton amour. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi, que tu nous inspires et que ta gloire, Seigneur, se manifeste. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous lisons dans Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans de leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous lisons aussi dans Luc, au chapitre 7. Luc, chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Nous lisons toujours Luc, au chapitre 8. Verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Et nous lisons Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et j'ai encore plusieurs textes à lire, mais on ne peut pas tous les lire. Mais le résumé de tout ce que je suis en train de lire, c'est quoi? C'est que on réalise que lorsque Jésus touche quelque chose, la chose est transformée. Donc Jésus entre chez Zachée, Zachée est transformé. Dans Matthieu 9, Jésus appelle Lévi qui était sur le bureau, dans son bureau de collecteur d'impôts, de douanier en quelque sorte, à notre époque on appellerait ça douanier, parce qu'il était à la porte, je crois, de la ville. Et Jésus dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu se lève, il suit le Seigneur. Et d'autres passages encore, nous nous souvenons, même dans l'Ancien Testament, Anne, qui cherchait un enfant, elle n'avait pas toujours d'enfant. Et un jour, le sacrificateur Élie lui dit, « Ça va, tu es exaucé, tu auras l'enfant. » Et elle a eu l'enfant. Et Élisabeth, pareil, elle n'avait toujours pas d'enfant. Un jour, un ange lui apparaît et lui dit, « Tu auras l'enfant. » Et elle a eu l'enfant. Donc, nous réalisons que lorsque Dieu touche quelque chose, lorsque Jésus touche quelque chose, la chose est transformée. Nous obtenons ce que nous voulons. Et nous voyons ce paralytique porté par ses quatre amis. Leur dernier espoir, c'était Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, « Ça y est, ton problème est réglé. » Et j'aime beaucoup le texte de Luc 13, de cette femme qui était courbée dans la synagogue. Jésus, à distance, la regarde et dit, « Femme, tu es guéri de ton infirmité. » Jésus en colère contre la détresse. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Vous imaginez quelqu'un qui est courbé et qui vit comme ça chaque jour. Quelle détresse! Et Jésus, en regardant, il dit, non, ça ne peut pas continuer ainsi. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Et dans Luc 19, Zachée, un pécheur reconnu par tout le monde, un pécheur notoire, considéré comme un mauvais, Jésus entre, il le convertit. Matthieu, dans Luc 23, à la fin de sa vie terrestre, humaine, Jésus, à la croix crucifié, arrive quand même à sauver quelqu'un qui était déjà perdu doublement. Perdu parce que condamné à mourir, perdu aussi parce que mauvais et pécheur, bandit. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc même à la dernière minute, dans des conditions difficiles, là où Jésus est, les choses changent. Or, chacun de nous a des désirs. Nous avons des attentes. Il y en a qui veulent être guéris d'une maladie, d'autres veulent être délivrés, peut-être d'un esprit qui les embête. Il y en a encore qui veulent être exaucés parce qu'ils attendent un enfant, ils veulent le mariage, ils veulent réussir au travail, avoir quelque chose. Il y en a qui se sentent mauvais et qui veulent donc vivre le fruit de l'esprit, la réalité du fruit de l'esprit. On a toutes sortes d'attentes. Il y en a qui veulent voir des frères se convertir, des enfants se convertir. Ils veulent voir les choses changer autour d'eux. Il y en a qui veulent voir des cousins, des parents se convertir, un quartier se convertir, une ville être touchée. Chacun a quelque chose qui paraît comme une montagne, mais que lui désire voir transformer. Et lorsque nous lisons ce texte, on se dit, mais tiens, oh, si Jésus était là, il aurait seulement dit une parole. On se souvient de la phrase du centenier. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc pour le centenier, c'était tellement évident que Jésus puisse agir et transformer les choses. C'était très évident, très facile. Donc lui, il était conscient de la facilité, le centenier. Il était conscient que si Jésus disait un mot, la chose est transformée. Alors, devant tout ce que nous avons comme obstacle, problème, difficulté, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de tous ces textes qu'on vient de lire, à partir de ma petite introduction? On se dit, mais tiens, il suffit que Jésus agisse et les choses vont changer. Et on se souvient du lépreux. Vous savez, il y a tellement d'exemples. Il y a un lépreux qui vient vers Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, dans la tête de ce lépreux-là, Jésus n'avait qu'à sortir le chèque. Donc, il savait que c'est comme si Jésus était immensément riche et que le lépreux ne lui demandait que 10 euros, quoi. Alors, tu es face à un millionnaire. Tu dis au millionnaire, écoute, si tu le veux, mon problème de voiture peut être réglé. C'est clair. Puisque c'est un millionnaire, une voiture, c'est rien pour cette personne-là. Et le lépreux dit à Jésus, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, si je le veux, mais oui, moi je le veux. Et je veux que tu sois pur. Allez, sois pur. Et il a été purifié. La lèpre est partie. Même avant nous, il y a des gens qui avaient compris que il suffit que Jésus dise un mot. Il suffit que Jésus soit là. On se souvient quand Lazare est mort. Les sœurs de Lazare ont dit, oh, si Jésus était là pendant qu'il était malade. Et elles étaient conscientes que si Jésus était là, la maladie était vaincue. Donc il y a bien d'autres personnes avant nous qui étaient conscients de cela. Ils étaient conscients que là où Dieu est, là où Dieu décide d'agir, les choses changent. Et je veux nous rappeler la même chose. Soyons conscients que là où Jésus intervient, les choses sont transformées. Alors donc quel doit être notre désir maintenant ? C'est de faire en sorte que Jésus agisse. Parce qu'en lisant les textes, on se rend compte que quand Jésus agit, les choses changent. Donc notre désir, ça doit être quoi? Que le Seigneur agisse, que Jésus agisse. Et donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qui pousse le Seigneur à agir? Puisqu'on voit bien que quand lui, il agit, nous avons la chose. Il y a toute une population qui était affamée, qui suivait Jésus. Jésus dit aux disciples, nourrissez-les vous-mêmes. Ils ont dit, mais ça va coûter des milliers d'euros à notre époque. Donc c'est comparé à des milliers d'euros. On ne peut pas nourrir tant de personnes. Peut-être même si on avait l'argent, on va acheter toute la nourriture où ? Pour plus de 5000 personnes. Et Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, il a résolu le problème. On se dit, mais finalement, Jésus peut résoudre tout problème. On se souvient, un moment, Pierre est venu voir Jésus pour lui dire, « Seigneur, on nous réclame l'impôt. » Jésus dit, « Mais bon, moi je suis fils du roi, fils du créateur, je suis le créateur, est-ce que je dois payer l'impôt ?» Non. Mais, pour éviter les scandales, je vais payer. Il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson. Et quand Pierre, il dit, « Quand tu pêcheras le poisson, dans le poisson tu trouveras l'argent qu'il faut pour payer l'impôt. » Effectivement, Pierre y va, il pêche le poisson, il trouve l'argent, il paye les impôts. Bien-aimé. Donc Jésus résout tout. Toutes sortes de problèmes, il résout instantanément. Quand il le veut, comme le lépreux avait dit, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Donc Jésus peut tout résoudre. Maintenant, nous avons beaucoup de choses que nous voulons voir être résolues. Nous avons des attentes, des conversions que nous voulons voir, des changements dans la vie des gens que nous voulons voir, des guérisons physiques et spirituelles que nous voulons voir, des délivrances. La solution, c'est quoi? C'est que Jésus agisse. Si Jésus agit, la chose est réglée. Il y en a même qui attendent, qui veulent une manne financière. Donc la solution, c'est quoi? C'est que le Seigneur dise un mot. Si Jésus dit un mot, on a la chose. Donc nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour que Jésus agisse maintenant? C'est ça la grande question. Mais la réponse se trouve dans les mêmes textes qu'on a lus. Dans les textes qu'on a lus, qu'est-ce qui a fait à chaque fois que Jésus agisse? À nous de chercher, bien aimé. Je vais citer quelques points, mais ce n'est que quelques points. Mais la grande réponse, c'est un cœur malheureux qui a foi en Dieu et qui cherche la gloire de Dieu. Quand on a un tel cœur, nous allons voir Dieu en action. Mais lisons les textes et examinons finalement à chaque fois comment et pourquoi Jésus agit. Parce que nous avons compris que si Jésus agit, notre problème est résolu. Alors on va se poser la question, comment faire pour qu'il agisse? Quelles sont les dispositions qui ouvrent la porte à l'action du Seigneur? Parce que l'action du Seigneur étant la solution. Et on se souvient, donc parmi les textes qu'on a lus, de Luc au chapitre 7 avec le centenier romain. Le centenier romain, déjà, c'est un homme très élevé dans la société, mais il s'humilie parce qu'il reconnaît que seul Jésus peut l'aider. Et il demande l'aide du Seigneur. Et quand le Seigneur s'approche, comme nous le faisons, nous demandons aussi l'aide du Seigneur. Parce que les gens vont dire, mais oui, nous aussi on demande. Lui l'a demandé, nous aussi on demande. Mais écoutez la suite. Il demande l'aide du Seigneur. Et le Seigneur s'avance. Il envoie des gens, il dit, oh, mais lui c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à venir chez moi? Je ne suis qu'un païen, je ne suis même pas juif. Déjà, il n'était pas permis aux juifs d'aller manger, dîner chez les païens, faire des choses chez les païens. C'était mal vu parmi les juifs. Mais en plus, ce n'était pas n'importe qui, c'était Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Le centenier envoie un deuxième groupe dire, mais j'ai l'impression qu'il se dirige vers chez moi. Ce n'est pas la peine. Pour ce que lui, il est, il peut résoudre les problèmes rien qu'en parlant, rien qu'en disant que le problème soit résolu. Moi, je n'ai pas besoin forcément de le voir physiquement parce que je n'en suis pas digne. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il parle pour que mon serviteur, qu'il donne des ordres aux microbes, qu'il donne des ordres aux atomes pour que mon serviteur soit guéri. Jésus a dit, ah, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Donc, nous voyons un des premiers éléments qui attire, un des éléments qui attire l'action du Seigneur, c'est la foi. La foi et l'humilité. l'humilité de dire, je suis arrivé à bout, je ne peux pas, je ne peux plus résoudre mon problème, je vais crier au Seigneur. Et pendant que le Seigneur se prépare à agir, l'homme rajoute, Seigneur, ta parole suffit. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin que tu parles. Ta parole suffit. Donc, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse agir? C'est la foi en sa parole. Quand quelqu'un a foi en la parole de Dieu, eh bien, ça attire l'action de Dieu. Et si on a réellement foi, on ne se laissera pas avoir par le visible. Cet homme-là dit, Seigneur, je n'ai pas besoin du visible. J'ai besoin que tu parles. Ta parole me suffit. Et si vraiment, bien-aimés, nous avons foi en Dieu, nous allons prendre la Bible, considérer ce qui est écrit pour nous et croire que ce qui est écrit est vrai et que ça va s'accomplir. Même si nous ne voyons pas encore, nous n'avons pas besoin de signes humains, physiques pour croire, mais nous devons croire en la parole de Dieu. Le centenier dit à Jésus, parle seulement. Parle seulement. Ta présence, je sais que beaucoup au milieu de nous auraient souhaité vraiment que Jésus entre chez eux. Ça va être un honneur même après, Jésus est passé chez moi. Mais là, lui a dit, mais moi ce que je voulais, c'est la guérison de mon serviteur. Or, Jésus, je ne veux pas te faire perdre du temps. Tu peux juste parler puisque tu es tout puissant. Combien de gens aujourd'hui croient encore à la parole de Dieu? Peu de gens. Ils veulent du visible. Ils veulent du toucher. Et après, on se plaint qu'on ne voit pas l'action de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas cru. Ce centenier-là a cru. Et quand on croit, on croit. On ne peut pas même dire je crois et vouloir être, comment dire, fortifié, soutenu par le visible. Il y a une contradiction. Soit on croit, soit on ne croit pas. Si on croit, on n'a plus besoin du visible. Voilà. Sinon, quand on commence à avoir besoin du visible, ça veut dire qu'on ne croit pas encore. Et le Seigneur promet que quand on croit, le visible se manifestera. Un autre exemple toujours de ce qu'on a lu. Dans Luc 8, Jaïrus, il arrive comment chez Jésus. Chef de la synagogue, il arrive tout triste auprès de Jésus. Il dit, ma fille est en train de mourir. Voilà. Un chef de la synagogue est considéré comme un chef même politique là où il est, dans sa localité. Mais une fois de plus, on revient sur ce terme-là, l'humilité. Une fois de plus, Jaïrus s'humilie devant Jésus. Il dit, ah, pour mon problème, je n'ai pas honte que les gens voient que Jésus est supérieur à moi. Parce que le chef de la synagogue était comme un concurrent de Jésus. Voilà. Puisque Jésus prêchait aux gens, guider les gens. Et lui aussi, son boulot, c'était de prêcher aux gens, de les guider aussi par la parole. Maintenant, Jésus arrive. Lui, il accepte que tout le monde voit que Jésus est plus grand que lui. Puisque lui, il va demander l'aide de Jésus. L'humilité est capitale et omniprésente pour qu'on attire l'action de Dieu. Si on veut attirer l'action de Dieu, l'humilité est omniprésente. Il faut se considérer comme petit. Tant qu'on se croit grand, il y en a qui réclament des droits à Dieu. Dieu, tu dois. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'humilité. Il y en a qui disent, mais c'est écrit, on ne voit pas, et ils se fâchent même. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'humilité. Cet homme-là est venu voir Jésus, dit, ma fille est en train de mourir. Je n'ai plus de solution. Je n'ai pas de solution. Jésus lui dit, d'accord, on y va. Et il y a eu ce qu'il y a eu en chemin. Jésus a été retardé. Et puis on vient dire à Jaïrus, ce n'est plus la peine puisque ta fille est morte. Ce n'est plus la peine. Ta fille est morte. Et Jésus dit à Jaïrus, Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Voilà, bien-aimé, nous revenons, on vient de citer ces deux éléments, on revient encore à ça, l'humilité et la foi. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Ne regarde pas avec ne considère pas les choses que tes yeux voient. Considère ce que moi je suis. Ne crains pas, crois seulement. Nous voyons encore les deux éléments qui reviennent, l'humilité et la foi. La femme qui souffrait de perte de sang, ça faisait combien de temps? 12 ans. Parce qu'on est en train de chercher qui est-ce qui peut faire bouger Jésus. Parce qu'on a bien compris que si Jésus bouge, nos problèmes sont réglés. Donc, qu'est-ce qui peut le faire bouger? On a dit l'humilité et la foi. Ça peut le faire bouger. Troisième élément. Cette femme souffrait depuis 12 ans. Donc, qu'est-ce qui a fait bouger Jésus? C'était le malheur de cette femme-là. Cette femme était malheureuse. Elle était malheureuse. Et je peux vous citer un autre exemple. Dans Jean 5, le monsieur qui était ça faisait 38 ans, qui était à la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui a fait que Jésus le guérisse? Est-ce que lui, il a demandé ça? Non. Jésus lui-même a guéri. Est-ce que la femme voulait être guérie? Mais est-ce que la femme a parlé à Jésus? Non. Mais elle a été guérie instantanément. Donc, on doit se dire que cette femme-là a s'est mise dans une situation qui a fait bouger le Seigneur, sans même parler. Le malheureux de la piscine de Bethesda, il n'a pas demandé à Jésus de l'aide. C'est Jésus qui l'a vu. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'attends, ça fait 38 ans que je suis malade, je suis paralysé. J'attends de plonger dans l'eau quand l'ange bouge, mais ça ne marche pas. Jésus dit, lève-toi et marche. Alors, qu'est-ce qui fait que le Seigneur bouge? C'est quand on est malheureux. Ces deux personnes-là étaient très malheureuses. La maman de Samuel, elle était malheureuse. Anne, je n'ai toujours pas d'enfant. Malheureuse. Aujourd'hui, beaucoup disent, je souffre, j'ai besoin de tel, de ceci, de cela. Mais ils ne sont pas malheureux. Vous savez, il y a même des pauvres qui sont plus orgueilleux que les riches. Des gens peuvent être en prison, mais ils sont plus orgueilleux que les gens qui sont à l'extérieur. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui se disait chrétien, mais en sa manière, quoi. Donc, il considérait qu'il fallait fumer pour sauver le fumeur, il fallait aller dans les boîtes de nuit pour sauver les gens qui vont là-bas. Donc, il avait son propre christianisme. Et ce garçon-là se croyait supérieur à tous les autres chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu un jour, il a mendié. Le fait qu'il a mendié, il a considéré que ce n'est pas n'importe qui a le courage de mendier. Effectivement, si on dit à l'un d'entre nous, va mendier à Saint-Sever, demander 1 euro, 2 euros pour le pain, ce n'est pas donné. Hein? Alors, vous vous imaginez que quelqu'un, dans sa mendicité, au lieu d'avoir honte, lui considère qu'il est plus grand que les autres parce que lui, il a eu l'humilité d'aller jusqu'à mendier. Voilà. C'est pour montrer que ce n'est pas parce qu'on manque des choses qu'on est malheureux. On peut manquer des choses et être fier. Lui, il était fier d'avoir mendié. Donc, bien d'entre nous qui attendent des choses ne sont pas malheureux. Beaucoup attendent des choses, veulent des choses, mais ils sont orgueilleux. Ils veulent prouver quelque chose à travers cet exaucement. Ils veulent se sentir forts. Ils sont pas vraiment malheureux de manquer la chose elle-même. Au fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est la conséquence de ces choses-là. Il y en a qui vont vouloir de l'argent, mais ce n'est pas pour faire du bien à leurs enfants. Mais c'est pour que, en habillant leurs enfants ou bien en faisant des choses pour leurs enfants, les gens voient. Donc, ils peuvent être malheureux comme ça d'apparence, mais en réalité, ils ne sont pas malheureux. Ils sont dans une quête égoïste. Ils ne sont pas vraiment malheureux. Parce qu'un malheureux est automatiquement humble. Un malheureux ne calcule pas. Le Jaïrus, n'avait pas le temps de se dire, tiens, je suis considéré comme Jésus, mais là, tout le monde va voir que je m'humilie devant Jésus. Ah, donc tout le monde va voir que je suis, il est plus grand que moi. Il n'a pas eu ce temps-là. La vie de sa fille comptait plus que ce que lui il était. Que sa fille vive, c'était vraiment un souci personnel. Alors que beaucoup demandent des choses, en réalité veulent paraître. Il y en a qui prient pour leur femme, que leur femme change. Ou les femmes prient pour leur mari, que leur mari change. En réalité, leur désir, c'est que les amis voient que ma femme est vraiment obéissante. Que les gens voient que mon mari, vraiment, il aime le Seigneur. La personne n'est pas vraiment malheureuse. Mais elle cherche à compléter quelque chose pour bandir, revenir encore dans l'orgueil. Et ça, ce n'est pas le malheur. Et Dieu veut que nous comprenions comment lui, il est attiré. Dieu est attiré quand il y a le malheur. C'est écrit même dans le psaume 34. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand on est vraiment malheureux, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai l'habitude de raconter, l'histoire de Jackie à Hong Kong. Cette chrétienne qui évangélisait les voyous à Hong Kong. Un jour, elle va pour parler du Seigneur à un voyou qu'elle avait rencontré autrefois, mais qui s'est fait attraper et qui était emprisonné à mafioso. Elle va là-bas et lui parle de Jésus en prison. Le mafioso continue toujours. Le bandit, il continue à résister, à dire « Non, je n'en veux pas de ton Jésus. » Et puis, elle s'en va. 2 ans plus tard, elle rencontre cet homme qui lui dit qu'il est devenu pasteur. Il dit « Ah bon ? Comment, qu'est-ce qui s'est passé que tu deviennes pasteur alors que moi, la dernière fois que je t'ai vu, ben, tu ne voulais pas de l'évangile. » Il a dit « Oui, quand tu m'as parlé, et j'ai vu que, en ayant refusé, quand toi tu es reparti, tu étais triste. Je n'ai pas compris que toi tu sois triste parce que moi je refuse Jésus. J'ai compris que c'était important, c'est pourquoi je me suis converti à Jésus. » Bien-aimé, cette femme-là était vraiment malheureuse parce qu'il n'y avait pas de télévision pour filmer l'entretien. Elle ne cherchait pas la conversion pour que les gens disent « Jackie est arrivé à convertir quelqu'un ». Non, elle était vraiment triste de voir quelqu'un partir en enfer. Elle était triste de voir quelqu'un souffrir parce que n'ayant pas Jésus, elle voulait sauver la personne. Beaucoup de gens veulent sauver les gens. Mais ils veulent pas, ils sont pas tristes de l'état des gens. Ils veulent qu'on dise j'ai été un bon chrétien. Eux-mêmes qui se disent je suis un bon chrétien, j'arrive à sauver des âmes, j'arrive à sauver, à parler aux gens et ils se convertissent. Ils veulent leur satisfaction. Ils sont pas du tout malheureux. Jackie était malheureuse. Automatiquement, ça a attiré la puissance du Saint-Esprit. Cet homme s'est converti. C'est ça, bien-aimé. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Le malheur attire Dieu. Si nous voulons attirer Dieu, il faut qu'on soit malheureux. Si on n'est pas malheureux, on ne peut pas attirer Dieu. Tu veux que Dieu agisse, ben montre que tu es malheureux de ta situation. Comme on l'a dit, le malheureux ne va plus calculer. Vous allez voir des gens qui disent, je n'ai pas de quoi manger, mais en même temps, vous les entendez dire, mes chaussures sont extraordinaires. Mais finalement, on se dit, mais est-ce qu'il est vraiment malheureux, il n'est pas malheureux. Il veut compléter quelque chose qui lui manque, mais il n'est pas vraiment malheureux. Parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ne va pas entrer dans une guerre de vêtements. Parce que manger, c'est essentiel. C'est ça, bien-aimé. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et tant qu'on n'a pas montré à Dieu qu'on est vraiment malheureux, il y a un blocage. Et quand je dis malheureux, je dis vraiment le vrai malheureux. Je ne dis pas le malheureux, comme nous on a eu autrefois un texte à l'école primaire, le faux malade. Donc quelqu'un qui va pleurnicher, qui pleurniche, mais en réalité, bon, c'est pour des objectifs mauvais. Non, c'est vraiment le malheureux qui dit « Seigneur, ça me dérange de voir les gens aller en enfer. Ça me dérange. » Ce n'est pas comme on a vu aux États-Unis, des gens qui se disent chrétiens. J'ai vu le journaliste qui dit « Je bénis le Seigneur d'être sur le plateau le jour où Ben Laden est tué. » Mais bien aimé, Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut sauter de joie lorsqu'un méchant meurt? C'est impossible. C'est pas normal. La Bible dit « Dieu ne veut pas la mort du méchant ». Qu'un homme aille en enfer, bien-aimé, imaginez combien c'est douloureux, bien-aimé. Si vous vous rendez compte de ce que c'est que l'enfer, qu'un homme aille en enfer, c'est très grave, quel qu'il soit. On ne peut pas souhaiter l'enfer à quelqu'un. Donc on ne peut pas sauter de joie de voir un méchant mourir. Au contraire, à chaque fois qu'un méchant meurt, on doit se dire, Seigneur, est-ce que cet homme-là, on lui a prêché l'évangile? Parce qu'on sait ce que le sort qu'il attend. Beaucoup de gens veulent voir d'autres se convertir, mais ils ne sont pas malheureux. Ils veulent juste remplir leur palmarès. Ils veulent juste remplir leur sac de victoire personnelle, égoïste. Non, bien-aimé, si on veut vraiment que les gens changent, on va manifester au Seigneur. Seigneur, je suis malheureux de voir que les gens ne croient pas en toi. Je suis malheureux. Je suis dérangé. Mais ce n'est pas pour ton intérêt personnel, mais c'est parce que tu as le cœur de Dieu. David rajoute aussi dans Psaume 51, il dit, Seigneur, si tu voulais les sacrifices, j'allais te faire. Mais ce n'est pas les sacrifices que tu cherches. Nous allons lire ça, Psaume 51. Beaucoup de gens font des sacrifices. Ils prient, ils jeûnent, ils sont réguliers dans les activités, mais c'est des sacrifices mécaniques dans le but de contrôler Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur qui souffre. Psaume 51. Et un cœur qui souffre, quand il va jeûner, c'est efficace. Quand il va prier, ça touche le Seigneur. Quand il va adorer, ça touche le Seigneur. Psaume 51, au verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, contrit. On se souvient quand David a été chassé par son fils de la royauté. Il s'avançait, humilié, honteux. Les gens disent, mais son propre fils, qui lui fait cela? Il fuyait, honteux. Et non seulement ça, Dieu permet que Shimei vienne avec des cailloux, jeter sur David des cailloux, jeter de la poussière sur David. David était entouré d'une armée. Shimei était seul. Donc David pouvait faire tuer Shimei à l'instant même. Vous savez, est-ce qu'un malheureux a le temps de penser à tuer quelqu'un? Un malheureux, c'est un malheureux, il pleure seulement. David a dit, les gardes du corps de David ont dit, David, laisse-nous le tuer. David a dit, pourquoi vous voulez le tuer? Si Dieu a permis que mon propre fils me chasse, qu'est-ce qui est plus grave que... qu'est-ce qui sera encore plus grave? Cet homme-là est en train de m'injurier, de me jeter la poussière. C'est Dieu qui a permis qu'il m'injurie comme ça. Moi, je veux pleurer seulement. Il a dit aux gens, laissez, je vais pleurer devant Dieu pour tout ce que je vis. Comme ça, Dieu verra ma tristesse et il me rétablira roi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. David a pleuré seulement. Il fuyait en pleurant. Il fuyait humilié. Il n'a pas tué Shimei. Mais il pouvait tuer Shimei. Mais il n'a pas fait. Parce qu'un malheureux ne pense pas à ça. Un malheureux pense à pleurer pour son propre sort. Il ne pense pas voir les défauts des autres. Il n'a pas ce temps-là. Son sort est tellement mauvais, lui-même, qu'il pense à lui. Il ne pense pas à un tel qui fait ceci, à un tel, non, il pense à lui-même. David a dit, je suis malheureux. Je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un pour compenser. Je suis malheureux. Je vais pleurer devant Dieu. Et Dieu aura pitié de moi. Et on a vu ce qui s'est passé. Dieu a eu pitié de lui et il a rendu roi, bien-aimé. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Soyons prêts à manifester notre tristesse auprès de Dieu pour dire, Seigneur, sans la conversion de mon frère, je ne suis pas bien. Il se perd. Seigneur, ma sœur, elle passe son temps à te critiquer. Or, son temps serait beaucoup plus utile si elle te servait. Et tu en es malheureux, le Seigneur dit. Là, la personne souffre. Mais beaucoup veulent des conversions, veulent la gloire. Il y en a qui disent, on veut la gloire, mais tu veux la gloire, pourquoi? Soyons malheureux pour la bonne cause. Le deuxième élément, un autre élément encore plutôt, c'est chercher la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14, 15 nous le dit. 1 Jean 5, 14, 15. Quand on dit chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas comme si c'était caché. C'est-à-dire, tu dois vouloir, chercher dans le sens vouloir, donc aimer, voilà. Ce n'est pas dans le sens où il y a la volonté de Dieu et sous un matelas, tu dois chercher, non, non. 1 Jean 5, parce qu'il y en a qui ont la réplique facile, mais c'est quoi la volonté de Dieu, pasteur? Moi, je dis, c'est ça la technique. Quand on dit à quelqu'un, il faut faire dans la volonté de Dieu, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Ben, la volonté de Dieu, c'est dans la Bible. Donc, il a tout expliqué, il a tout dit, il a manifesté sa volonté. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Bien aimé, c'est grave, hein? Assurance. Donc ça ne bouge pas. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle que soit. Quelle qu'elle soit, nous avons la chose. Donc bien des choses que nous réclamons à Dieu, nous ne réclamons pas cela dans la logique de Dieu. Anne réclamait un enfant pour rivaliser avec ça, la première femme d'Elkana. Elle voulait un enfant parce qu'elle était la deuxième femme, elle était sans enfant. Elle voulait avoir un enfant comme ça, elle va rivaliser avec la première femme. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais quand Anne a compris qu'un homme, c'est une créature grandiose, merveilleuse, appelée à servir l'Éternel. Ce n'est pas seulement à réjouir une maman, une femme, comme toute femme veut avoir un enfant. Vous savez, beaucoup de femmes finissent par avoir un enfant même seule. Comme ça, leur souci de maternité est calmé. Maintenant, elles peuvent construire leur vie. Et on voit les dégâts que ça cause plus tard. Non. Elle voulait avoir cet enfant pour se dire, je peux être mère aussi. Mais il n'y avait toujours pas d'enfant. Mais le jour où elle a compris qu'une femme soit reconnue comme mère, ça a peu d'importance par rapport à un serviteur de Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux un enfant pour que cet enfant-là te serve. Alors là, elle s'est placée dans la volonté de Dieu. Automatiquement, elle a eu l'enfant. Automatiquement. Comme on l'a dit au début, quand Dieu intervient, on a la chose. Automatique, c'est automatique. Donc, ce qui nous bloque, c'est que nous ne permettons pas que Dieu intervienne. Et qu'est-ce qui fait que Dieu n'intervienne pas? Parce que nous ne nous mettons pas dans les dispositions que Dieu aime pour intervenir. Des dispositions qui attirent l'action de Dieu. Et faire les choses dans la volonté de Dieu, réclamer les choses selon la volonté de Dieu, attire automatiquement l'action de Dieu. C'est important de désirer des choses dans la logique de Dieu et non pas dans une logique humaine. De vouloir prendre la gloire de Dieu, de vouloir épater, de vouloir se sentir fort. On réclame des choses parce qu'on veut se sentir fort. C'est ce qui amène les gens dans les dérives. Aujourd'hui, il y a une nouvelle doctrine qui s'appelle l'église émergente où ils disent, si les gens ne viennent plus dans les églises, c'est parce que nous parlons de l'enfer et du ciel. Maintenant, pour eux, l'enfer, c'est quand quelqu'un souffre sur la terre. Donc, ils ont dit, c'est ça l'enfer. Donc, il ne faut pas parler de l'enfer comme si c'est un truc à venir ou du ciel comme un truc à venir. Le ciel, c'est quand tu es bien. Donc, le mot éternité, ils vont chercher des complications en grec. Éternité, ça veut dire un présent que tu vis bien, quoi. C'est ça l'éternité. Alors, pour attirer les gens, ils ont changé le discours. Parce qu'ils veulent remplir les salles. effectivement, ces églises-là, en moins de 5 ans, rattrapent des églises qui ont fait 30 ans en nombre. Parce que les gens viennent. Ils ouvrent la salle de culte pour faire un centre aéré aux gens du quartier. Ils poussent les païens à venir pour satisfaire leurs besoins. Afin que, et après, ils parlent du Seigneur selon leurs termes. Tout ça, pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils cherchent le nombre. Ils cherchent le nombre selon la volonté de l'homme. Ils ne cherchent pas le salut vraiment des gens. Ils ont voulu se sentir efficaces. Je suis un pasteur efficace, la salle est remplie. Donc, il me faut un discours qui va remplir la salle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ils amènent comme ça des gens en enfer. C'est très dangereux. Il faut chercher les choses dans la logique de Dieu. Pourquoi tu veux la puissance? Pourquoi tu veux un don spirituel? Pourquoi tu veux évangéliser? Pourquoi tu veux que les âmes soient sauvées? Pourquoi? Est-ce que c'est dans la logique de Dieu ou c'est dans ta propre convoitise, dans ta logique à toi, de se sentir un chrétien fort? C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés, parce qu'ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais ils cherchent leur propre gloire. Cherchons la volonté de Dieu, bien-aimés. Beaucoup ne sont pas exaucés parce que quand ils prient pour leurs voisins, peut-être ils prient juste parce qu'ils veulent plus que les voisins les embêtent. Vous savez, il y a certaines femmes qui prient pour la conversion de leur mari parce qu'elles ne veulent plus que le mari continue à les embêter, les empêcher de venir à l'église. Ah, si se convertissait, je serais tranquille. Et elles prient. Et on a vu d'ailleurs certaines, quand le mari s'est converti comme il faut, c'est elles-mêmes maintenant qui se fâchent. Parce qu'elles trouvent que le mari est devenu extrémiste. Mais non, c'est toi qui n'étais pas plus vraiment, vraiment, vraiment chrétien. Parce qu'elle, elle voulait ne plus être embêtée. Elle ne voulait pas vraiment le salut de la personne, mais elle ne veut plus être embêtée. Et certains hommes, pareil. Et il y a des gens qui prient pour les membres de leur famille parce qu'ils veulent quand même que tout le monde soit sauvé, que ça soit comme une sorte de bonne vitrine. Voilà, quelque chose de bien, avoir quelque chose qu'on manque, quoi. Mais il n'y a pas vraiment la logique que ces gens-là sont des créatures de Dieu, qu'elles seraient beaucoup plus utiles à servir Dieu plutôt qu'à vivre dans le monde, quoi. Mais il y a le désir de se dire, on va au culte en famille. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que chaque humain serve Dieu. Chaque humain serve Dieu. C'est ça qui compte. Et quand on est dans ce souci-là, quand on est dans ce désir-là, Dieu agit. Mais quand, en réalité, on prie parce que c'est ta sœur, ton fils, ton frère, et tu veux juste que dans ton cœur, tu sois apaisé, tu es sûr qu'il ira au ciel. C'est ton cœur que tu veux voir apaisé. Ce n'est pas la gloire de Dieu vraiment que tu cherches. Parce que si c'est vraiment la gloire de Dieu, on aura la même intensité, on priera pour les voisins, on priera pour ses enfants, on priera avec la même intensité parce que nous voulons voir des humains servir le Seigneur. On aime tous les humains de la même manière, puisque le Seigneur aime tous les humains de la même manière. On a vu beaucoup de gens, quand leurs membres de famille sont convertis, eux, ils ont régressé. Parce qu'ils se sont dit, bon, ça y est, j'ai atteint mes objectifs. Eh bien, ils ont relâché. C'est ça la réalité. Mais quelqu'un qui, dans sa tête, veut vraiment voir des conversions des gens parce que Dieu doit être honoré, Dieu doit être servi, même quand ces gens-là se convertissent, lui, il va encore toujours à fond parce que ce que lui voulait, c'était l'honneur de Dieu et ça ne change pas. Mais beaucoup veulent être juste apaisés dans leur cœur et ce qui fait que dès que les membres de famille se convertissent, ils sont apaisés. C'est bon, je sais que tout le monde ira au ciel. Maintenant, moi, je peux me relâcher. Maintenant, je peux vivre ma vie. Ils ne le disent pas avec la bouche, mais ça se fait comme cela. Et on voit après, nous qui observons, on voit le changement des gens. Cherchons toujours la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit, la volonté de Dieu, quand on a dit « chercher », comme il le dit hein, dans Luc 7 et dans Matthieu 7, 7, « cherchez et vous trouverez ». Ce chercher-là, ce n'est pas dans le sens que ce qu'on cherche, on ne le voit pas. Hein. Vous savez, quand on dit tu cherches une aiguille, on dit ben va chercher au coin là-bas, mais tu ne vois pas encore. Mais nous cherchons ce que nous savons, ce que nous voyons. C'est-à-dire, la Bible est là, nous connaissons les désirs du Seigneur, nous savons ce qu'il attend de nous, et notre se chercher là, c'est vouloir intensément. Voilà, tu cherches. Mais tu sais ce que tu cherches et tu vois là où ça se trouve. Mais tu creuses parce que tu sais que tu vas le trouver. Ce n'est pas un chercher, comme on dit, au hasard. Non, c'est un chercher dans le sens où tu mets des efforts pour trouver la chose. Voilà, cherche et tu trouveras. Donc tu sais que dans mon terrain, sous la terre, il y a du diamant. Tu ne cherches pas parce que tu vas trouver ou pas. Mais tu cherches parce que tu sais que c'est dedans. Et Dieu te demande de chercher, de fouiller, d'y aller. C'est ce qu'il demande. C'est la même chose pour la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. Elle est inscrite dans la parole. Nous devons tout chercher dans cette logique-là de la volonté de Dieu. Et nous aurons la chose, quelle que soit. Quelle autre condition, bien-aimé ? Nous nous remarquons dans Matthieu 17, le Seigneur dit ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Dieu veut qu'on prie. Prier, c'est l'humilité. Jeûner, c'est l'humilité. Jeûner et prier, c'est se priver d'un droit humain, celui de manger, celui de se nourrir pour vivre. Et quand tu jeûnes, tu pries, il y a une lutte en toi, entre toi et Dieu. Ta chair qui dit « j'ai le droit de manger » et toi qui t'humilies, tu dis « je ne mange pas pour Dieu ». C'est de l'humiliation. Et Dieu agit quand il y a l'humiliation. Et le jeûne et la prière montrent aussi le souci que nous attachons à nos demandes. Et beaucoup de gens vont amener des logiques mathématiques en disant « bon, il y a 6 mois, j'avais jeûné ». La chose n'avait pas changé. Si je dois jeûner encore pour la même chose, qu'est-ce qui prouve que ça va changer? Ça, c'est des logiques mathématiques. Quand on est poussé à s'humilier, il faut s'humilier toujours encore. Comme le Seigneur nous le dit dans Luc 18. Ça, c'est un autre élément, c'est la persévérance. Qu'est-ce qui attire l'action de Dieu? La persévérance. Et il nous le dit dans Luc 18, en nous citant l'exemple de la veuve inique, de la veuve et du juge inique. La veuve qui réclamait, qui réclamait, qui réclamait. Elle a été persévérante parce qu'elle était humble. Persévérante parce qu'elle avait la foi. Ce sont ces choses-là qui attirent Dieu, la persévérance. Quand Dieu voit la persévérance, il se dit, tiens, cet homme vraiment croit en moi. Il ne veut pas lâcher prise parce qu'il croit. C'est ça qui attire le Seigneur. Vous vous souvenez, quand le Seigneur a dit à Saül que c'était fini. Il lui a dit ensuite quoi? J'ai trouvé, ça c'est une autre étape encore, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Ce qui attire Dieu, c'est le cœur. Et quand Samuel est venu chercher l'homme en question dans la famille de Jessé, dans la famille d'Isaï, eh bien, on lui a présenté en premier l'aîné, Eliab, qui était très costaud. Quand Samuel l'a vu, il a dit, ah, ça c'est lui le roi. Et la voix de Dieu lui a dit dans son cœur, ce n'est pas lui. Et Dieu est très sérieux, il dit, mais je l'ai rejeté, ce n'est pas lui. Parce que moi, je ne regarde pas aux apparences, je regarde au cœur. Il y a un verset qui dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur ait des bonnes pensées, des pensées divines. Il y a le passage de Philippiens 4, 8 à 9 nous le dit aussi. Que nos pensées soient des pensées pures, des pensées de Dieu. Vous savez, même si nous sommes pécheurs, nous avons encore une chair qui n'aime pas Dieu, nous, en tant qu'individus autonomes, nous devons toujours diriger nos pensées vers ce qui est bien. Même si la chair nous donne des pensées qui ne sont pas bonnes, nous, on doit vouloir toujours les pensées bonnes. Donc, Dieu a vu Eliab, il a dit, ce n'est pas lui. Le deuxième est venu, ce n'est pas lui. Jusqu'au dernier, mais où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, il est en train de paître les moutons. pendant que les autres sont à la maison en train de manger, lui, il est en train de paître le mouton. Voilà un homme responsable. Samuel dit, amenez-moi. Et Samuel, quand il voit David, ça fait Dieu lui-même tressaillit de joie. Il dit à Samuel, c'est lui, un enfant. Et Samuel, ou un David, il dit, tu es maintenant notre roi, c'est toi le roi. Dieu regarde au cœur. Il y en a qui cherchent à faire des choses extraordinaires et ça n'arrive pas. Parce que leurs cœurs ne sont pas dirigés vers Dieu, mais vers eux-mêmes. Leurs cœurs sont remplis de pensées personnelles, de pensées humaines, pas de la pensée divine. David voulait, David aimait Dieu, quoi, aimait Dieu. Et quand on le chassait par Saül, la tristesse de David, ce n'était pas d'être loin du pouvoir. La tristesse de David, c'était qu'on l'éloignait d'Israël, de la terre de Dieu. C'était ça. Il dit, ah, on me chasse comme une punaise. Et on me prive d'être sur la terre du Seigneur. C'est ça qui dérangeait David, qu'il soit loin de la terre de Dieu. Ça le dérangeait énormément. Ce n'était pas le pouvoir. C'était le fait qu'on le prive d'être en Israël. Mais il y a beaucoup qui sont dérangés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont dérangés parce qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils sont dérangés parce qu'ils ne prêchent pas. Ils sont dérangés parce qu'ils n'ont pas tel don. Ils sont dérangés parce qu'ils n'ont pas... Mais David était dérangé qu'on l'éloigne de Dieu. Nous devons être dérangés parce que nous sommes loin de Dieu, non pas pour ce que tout ce qu'on manque. C'est ça le cœur que Dieu attend. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien-aimé, moi, quand il arrive que il y a l'abondance, je deviens très prudent parce que j'ai peur d'être éloigné de Dieu. Dès qu'il y a l'abondance, il y a un réflexe en moi, un réflexe d'opposition. Les gens vont dire, mais oui, mais toi, tu aimes la souffrance. Non, ce n'est pas que j'aime la souffrance. Je connais les effets de l'abondance. L'abondance nous conduit souvent à nous croire fort et à nous croire Dieu. Et on peut tout résoudre avec notre abondance. C'est très dangereux. Dès qu'il y a l'abondance, il y a un calcul en moi qui se met en place. Prudence. Concentre-toi sur Dieu. Tu peux être invité quelque part. Il y a une abondance sur la table. Et tu oublies Dieu. Tu vois là ma journée maintenant. Non. Quand il y a une telle abondance, tu dis, ah Seigneur, je te remercie, toi qui peux créer une telle abondance pour tes enfants. Voilà. Gardez toujours la ligne du Seigneur. Gardez toujours la pensée en Dieu devant l'abondance. Il faut que le cœur soit le cœur de Dieu. C'est un cœur qui attire Dieu. Ça fait des gens comme David. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Pas grand-chose. Juste avoir les pensées divines. Il est dans la possibilité de tuer Saül. Il dit non, c'est loin de l'Éternel. Même s'il fait des fautes, ce n'est pas mon problème. C'est son problème entre son Dieu. Moi, je ne le tue pas. Ça, c'est le cœur que Dieu aime. Les gens ont dit, mais légitime défense. David a dit, je n'applique pas ça. Moi, j'applique la parole de Dieu. J'applique la volonté de Dieu. Je ne peux pas tuer un serviteur de Dieu. Je refuse. Mais il fait des erreurs. Ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Dieu. Et quand Dieu voit ça, il dit, ça, c'est vraiment... Je ne me suis pas trompé. Mon choix est bon. C'est l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu combien de rois? Il y en a eu beaucoup, hein? Mais on ne parle que de David, hein? Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, je vous fais du bien à cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur. Mais qu'est-ce que David a fait d'extraordinaire? Juste avoir un cœur de Dieu. Le cœur que Dieu aime. C'est tout. Le reste est venu tout seul. Il a battu Goliath. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu parce que c'est Dieu qui a frappé Goliath, ce n'est pas David. Dieu a utilisé David. Mais ce qui frappe Dieu, c'est ce cœur-là qu'il aime. Et c'est pourquoi il a fait de David ce qu'a été David. Il faut avoir un cœur qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime les autres, le cœur de Dieu, qui aime être le dernier. Il est écrit dans Romains 12, « Soyez attirés par ce qui est humble. » Il ne faut pas chercher à être attiré par ce qui est élevé, c'est écrit. Et il y a des gens qui prennent ces versets-là, coup de sabot, dans la poubelle. Moi, je veux le verset qui dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ils prennent les versets qui disent, quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Ils prennent ces versets-là, ils écrabouillent dans leurs mains, allez, dans la poubelle. Et ils vont chercher le verset. Vous savez, quand tu vas chercher dans un intercalaire, tu cherches le papier, ils vont prendre le verset et ils mettent un peu de poudre dorée sur le verset qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prennent ce verset-là. Voilà. On va afficher ça. Le verset qui parle de l'humilité à les poubelles. Et malgré le fait qu'ils ont fait ça, ils n'ont toujours pas ce qu'ils cherchent. Parce que Dieu, pour l'attirer, il faut avoir un cœur que lui aime. Un cœur de simplicité, un cœur qui a les pensées de Dieu, un cœur qui pardonne. C'est important. Qu'est-ce qui attire Dieu? C'est la soif aussi. On va finir avec ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais il ne faut pas qu'on dise trop. Il faut qu'on soit simple pour qu'on pratique. Parce que s'il y a trop à dire, après on ne sait pas quoi pratiquer. Dans Jean 7, 37, Jésus dit, c'était le jour de la fin de la fête des tabernacles, c'est le jour où les Juifs attendent qu'ils prient pour la pluie. Jésus dit, mais vous priez pour la pluie. C'est une pluie physique. Il lui dit, que celui qui a soif vienne chez moi. Voilà. Que celui qui a soif vienne chez moi. Dans Jean 7, 37. L'eau que je lui donnerai deviendra des fleuves d'eau vive. Alors, comment faire pour attirer la gloire de Dieu? C'est avoir soif. C'est tout. Il y en a qui se suffisent et ils veulent juste qu'il y ait la gloire de Dieu comme un supplément, comme un gâteau qui est déjà fini. On vient juste ajouter du sucre et glace. Dieu ne vient pas. Dieu, pour venir, il faut qu'il y ait soif. Il faut vouloir l'action de Dieu. Il faut vouloir que les choses changent. Mais comment manifester cette soif-là? Lorsqu'on est déterminé, on dit, Seigneur, je n'accepte pas de voir ton nom blasphémé, de voir des gens qui ne croient pas. Il faut que ça change. C'est ça la soif. Quelqu'un qui dit, je vais prier, je vais jeûner, je vais continuer à servir Dieu jusqu'à ce que les choses changent. C'est quelqu'un qui a soif, qui ne se laisse pas bloquer par les obstacles. Vous savez, quelqu'un qui a soif, les obstacles ne lui disent rien. Il faut qu'il trouve l'eau, il faut qu'il trouve la nourriture parce qu'il a soif. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de la médiocrité. Beaucoup ont accepté la médiocrité. Certains pasteurs, ils ont acheté les bâtiments. Dans la caisse de l'église, il y a suffisamment pour sa retraite. Bon, c'est bon. Il y a une sœur qui était partie dans une église qui a voulu intégrer la chorale. On lui dit, notre chorale est déjà au complet, c'est bon. On n'a plus besoin des gens. Bien-aimés. Je comprends que certaines personnes ne soient pas encore prêtes, mais dire que nous, on est au complet, bien-aimés, c'est impossible. Nous avons toujours besoin des serviteurs. Et beaucoup sont déjà au complet. Ils n'ont pas soif. Dieu ne peut pas agir. Beaucoup sont dans la médiocrité. Il a sa maison, il a sa retraite. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est prendre la puissance de Dieu, faire ce qu'il veut avec la puissance de Dieu. Dieu dit, tu n'as pas soif, toi, tu cherches un complément dans ta vie. Moi, je ne suis pas un complément. Moi, je suis le total. Dieu ne veut pas être désiré comme on désire des sandales ou une ceinture. Il veut être désiré comme on désire la vie, comme quelqu'un qui a vraiment soif. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas bu, tu n'es pas bien. Donc, il faut être dans un état qui est que tu vois les infos, tu es dérangé. parce qu'il y a le malheur. Dieu n'est pas honoré. Tu as soif. Mais quand tu es là, tu regardes les infos, en réalité, tu regardes ton écran plat. Comment il est beau. Dieu dit, voilà. Il n'a pas soif. Son écran plat le satisfait. Il n'a pas soif. Il y a des gens qui sont là. Ah, j'ai prêché, les gens étaient touchés, c'était bon. Dieu te regarde et dit, voilà, il n'a pas soif. Vous savez, quelqu'un, un vrai chrétien, ne peut pas être satisfait. Sa soif, c'est quand Jésus viendra régler tout. C'est cela que sa soif va s'éteindre. Un vrai chrétien voudra toujours que toute l'humanité soit sauvée. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas. Il a soif. Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne, de fleuve d'eau vive. Bien-aimé, imagine maintenant qu'on donne de fleuve d'eau vive à quelqu'un qui ne veut pas bouger. Mais ça va devenir un puits. Ça reste avec lui, le puits. Parce que lui ne veut pas bouger, il n'a pas soif. Donc, il faut qu'on donne à quelqu'un qui a soif, qui sera dérangé. Quand il a la gloire, il veut la distribuer à l'humanité entière. Ce sont ces gens-là qui ont soif. Les Paul, ah Paul, à pied, sur des bateaux, bravant les brigands. On a lu ça dernièrement, non, le dimanche, je crois, dans 2 Corinthiens 11. Il a dit, j'ai bravé les brigands. J'ai connu 3 naufrages, bien aimé, 3 naufrages des bateaux. Aujourd'hui, on a des gilets de sauvetage. Quand j'étais parti en Martinique, on m'a amené pêcher en mer, j'ai pris bien le gilet de sauvetage, tranquille, bien aimé, au cas où. Mais Paul n'avait pas de gilet de sauvetage. 3 naufrages. Des rébellions, des séditions, des trahisons, des faux frères. Il a connu tout ça, mais il ne s'est jamais arrêté. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui disent, bon, moi, je ne fais plus confiance en personne. Donc, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui dirige. Parce que on l'a eu. Il n'a plus soif. Mais quelqu'un qui a soif, il dira, non, Dieu est capable de produire des vrais disciples. Je vais continuer toujours à faire confiance aux gens. Voilà, il ne s'arrête pas. Lui, il veut voir la gloire de Dieu. Les gens transformés. Beaucoup se sont arrêtés. Ah, mais je dois aller en mission là-bas, mais là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale au Mozambique. Mais bien aimé, ce sont des gens qui n'ont pas soif. Ils ont un boulot tranquille. Ils attendent la retraite en train de feuilleter la Bible avec un jus d'orange, avec une paille sur la table, tranquille. Il apprend qu'en Afghanistan, les chrétiens sont maltraités. Oh, Seigneur agit. Il apprend que là-bas, on va envoyer 50 euros à portes ouvertes pour que portes ouvertes aident les chrétiens à persécuter. Toi-même, tu es là, tranquille. Il n'y a aucune inquiétude, aucun souci. Tu n'as pas soif. C'est pourquoi il n'y a pas la gloire de Dieu. Nous, bien-aimés, nous voulons mettre les conditions dans nos cœurs, dans nos vies, qui fassent que le Seigneur agisse. Et il y en a qui sont les spécialistes de dire, « Oh, pasteur, on ne voit pas de miracles. Oh, mais est-ce que c'est le pasteur qui doit faire les miracles ?» Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mais toi-même aussi. » Il y a des spécialistes de rejeter la faute sur les autres. Mais toi-même, mais pasteur, ça fait longtemps qu'on prie, la ville n'est pas changée. Mais la faute, c'est à qui? C'est le pasteur qui est devenu Dieu. Non. Toi, cherche Dieu, Dieu changera ta ville. Amen. Manifeste ta soif. Dieu cherche des gens qui ont soif. Il ne faut pas vivre de la soif de l'autre. Vous vous souvenez des vierges folles, hein? Ils ont voulu prendre, qu'on leur donne, acheter un peu d'huile, hein? Chez les vierges sages. Les vierges sages ont dit, c'est pas possible, l'huile qu'on a ne peut servir que pour nous. Allez vous-même trouver un endroit acheter de l'huile. Bien-aimés, ça c'est un manque de soif. Quelqu'un qui a soif prend la responsabilité, comme David. Il arrive, il trouve Goliath en train de dire des bêtises. David n'a pas dit, mais qu'est-ce que vous faites? Envoyez vos soldats le frapper. Il a posé la question, mais c'est qui cet homme-là qui se permet d'injurier, comment dire, l'armée de l'Éternel? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va le battre? Il a pris sa responsabilité. Il n'a pas dit, moi je suis un enfant, Saül a l'armée. Non, il a pris ses responsabilités. Il y a des gens qui sont spécialistes. De dire, certains pasteurs disent, « Ah, mais les gens ne donnent pas l'argent. Comment on va faire ?» Oh, pasteur, est-ce que toi, tu dépends des gens ou de Dieu ? Prends tes responsabilités. Tu es un chrétien, tu es envoyé par Dieu. Demande à ton patron d'envoyer l'argent. Tu commences à déranger les gens. Mais ils ne donnent pas, c'est pourquoi rien n'avance. Mais c'est faux. Si on a soif, on dira, « Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. » L'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons voir ton action. Tu vas prier parce que tu as soif et tu as besoin d'être désaltéré. Et seul Dieu peut te désaltérer. Et tu vas crier à lui. L'argent des gens ne peut pas te désaltérer. C'est Dieu qui peut te désaltérer parce que Dieu est tout puissant. C'est ça, bien-aimé. Quand les apôtres ne savaient pas quoi faire pour nourrir les gens, ils sont retournés vers Jésus. Ils ont dit, mais Jésus, mais nous, on ne peut pas. Fais quelque chose. Ici, il y a 5 pains et 2 poissons. Bien-aimé, ce n'est pas anodin de présenter à Jésus 5 pains et 2 poissons. C'est pour dire, fais quelque chose avec ça. Parce que présenter 5 pains et 2 poissons devant 5000 personnes, c'est insensé. Mais ces gens-là avaient une attente. Quand les pierres disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche, bien-aimé. C'est des gens qui avaient soif de la gloire de Dieu. D'ailleurs, on le voit après ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quelle a été leur prière? Seigneur, nous voulons que tu fasses des miracles, que tu fasses des choses au nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, pourquoi ils disent au nom de ton saint serviteur Jésus? Afin que les gens voient que Jésus est ton fils. C'était ça leur soif. Ils ne voulaient pas être des grands chrétiens. Ils voulaient que les gens, à travers eux, voient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des choses parce qu'ils veulent se sentir forts et grands chrétiens. Non, ce n'est pas biblique. Il faut chercher la gloire de Dieu. Il faut avoir le cœur que Dieu attend de nous, le cœur de David. Un cœur qui cherche la gloire de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime les hommes, qui aime la simplicité, qui a la nature de Dieu. David qui était roi, mais il avait une nature simple, la nature de Dieu. Si nous avons soif, bien-aimés, nous ne nous contenterons pas de la médiocrité, nous chercherons toujours à aller plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur nous attend. Je ne peux pas citer tous les états que Dieu, qui attire Dieu, mais on a cité quelques exemples. En résumé, Dieu est attiré par un cœur qui est entier, totalement donné, dévoué à lui. Il est attiré par ça. Un cœur humble qui accepte d'être écrasé par la volonté divine. Jésus a accepté d'être écrasé par la volonté divine. À un certain moment, Jésus était fatigué à Gethsémané. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut changer le plan? Mais non, il a dit, que ta volonté se fasse. J'accepte d'être écrasé par la volonté divine. C'est ce que Dieu attend. David a pris le risque de combattre un géant parce que la volonté divine était plus forte dans son cœur que sa propre vie. Paul le dit dans Actes des Apôtres 20-24, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission, que je vive la volonté de Dieu. C'est plus important que ma vie. Dieu cherche de telles personnes qui ont vraiment soif, qui ont un cœur entier pour lui, un cœur humble vis-à-vis de lui. Donc, comme on l'a dit, l'humilité revient. Humilie-toi devant Dieu et aie la foi en Dieu. Des cœurs qui ont la foi. Des gens qui s'humilient, qui ont la foi. Des gens qui sont malheureux, qui disent, Seigneur, sans ton action, je suis malheureux. Ce ne sont pas des gens qui cherchent juste des choses pour chercher en manifestant une sorte de tristesse fausse, juste une tristesse parce qu'ils veulent compléter quelque chose. Non, mais des gens vraiment qui sont malheureux et ça attire l'action de Dieu. Voilà, en conclusion, L'action de Dieu résout tout. Mais nous soyons dans l'état qui attire l'action de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci de nous aider à entrer dans l'état qui attire ton action. L'état que permet aussi le jeûne et la prière. L'humiliation, la foi. L'humilité, Seigneur. Dans l'état de malheureux. Dans l'état de quelqu'un qui est au bout du rouleau. Tu n'attends que ça pour venir agir. Beaucoup peut-être réclament des choses, mais ils ne sont pas au bout du rouleau. Ils ont leur solution à côté. Mais toi, tu cherches des gens qui n'ont de solution que toi seul. Alléluia. En Jésus, j'ai placé ma confiance.